BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 31 minutes, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour, avec cette question ce matin, l'économie française est-elle en train de nous surprendre? D'abord avec Choose France et ce nouveau record, 93 milliards d'euros d'investissement annoncés à Versailles hier, et derrière les annonces, y a-t-il une véritable réindustrialisation du pays? Les data centers et l'intelligence artificielle sont-ils les hauts fourneaux du 21e siècle? Et puis surtout, la confiance des investisseurs étrangers est-elle de retour durablement? Ce sera le premier thème des débats avec mes experts aujourd'hui. Et puis cette autre surprise, c'est les chiffres de l'INSEE. L'INSEE qui a révisé la croissance en 2023, elle a quasiment doublé en réalité. Et désormais, l'industrie pèse plus lourd que prévu dans le PIB, l'investissement des entreprises aussi, qui a mieux résisté. Et finalement, si l'économie française allait beaucoup mieux que le récit dominant ne le dit, ce sera le deuxième débat aujourd'hui. Et puis enfin, face à la Chine qui subventionne massivement son industrie et impose progressivement ses normes, comment l'Europe peut-elle encore défendre son modèle économique? Faut-il changer de doctrine commerciale? Un séminaire s'est tenu vendredi dernier à Bruxelles avec les commissaires. On verra ce qu'il en est ressorti. Et ce qu'en pensent mes experts autour de la table. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business et vous y êtes bien. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christian Poyot. Bonjour Christian.
Bonjour Raphaël Legendre.
Co-fondateur et CEO de Micropole, le groupe Talent. Hervé Novelli, bonjour Hervé. Bonjour. Initiateur du Cercle des entrepreneurs engagés et ancien ministre. Et puis Thomas Grébin. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël.
Responsable du programme Macroéconomie et Finances Internationales au CEPI. Alors je vous le disais, je voulais qu'on commence tout de suite par ces questions d'attractivité. Choose France, le dernier Choose France d'Emmanuel Macron pour sa 9e édition. Eh bien le président de la République a quand même pu annoncer 93 milliards d'euros d'investissement étrangers, de promesses d'investissement pour l'instant. D'abord, ce chiffre, est-ce qu'il vous paraît crédible? Allez, Christian, je commence avec vous.
Oui. Qu'est-ce qui
Parce qu'on a eu tendance à les gonfler à l'hélium un peu à un certain moment.
Je pense que le mieux, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années et voir quel était le pourcentage d'atteinte des chiffres annoncés. Alors, il n'est jamais de 100%, mais ce n'est pas du fait de la France ou d'Emmanuel Macron. Les sociétés peuvent dire à un moment, OK, finalement, j'investis autrement ou de manière plus décalée, etc. Mais il me semble que le chiffre d'atteinte des années précédentes est de 70%, grosso modo. Une moyenne qui a été faite. Voilà. Bon. Moi, je trouve ça pas mal.
Je crois même qu'on est à 95% des projets qui sont mis en place. Hein,
oui, mais moi, je parle en montant. Bon, alors après, si c'est 95 milliards, extraordinaire, il y a là, comme disait l'autre. Voilà. Donc, c'est une réussite. Je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Ouais. On va lister certainement des sujets qui restent complexes, etc. Mais je veux dire, ne sont pas dans le catastrophisme. La France a plein d'atouts pour réussir, comme le dit une très belle chaîne de radio. Voilà. Donc oui, Choose France, c'est une réussite d'Emmanuel Macron et saluons-la tel qu'il faut le faire.
Ah oui, en dépit des normes, en dépit de la fiscalité qu'on critique toujours, Thomas Grébin, on a quand même ce chiffre-là, c'est une excellente nouvelle.
Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors sur les chiffres, l'usine nouvelle a fait un décompte intéressant la semaine dernière, qui disait que s'il y avait eu 178 projets qui avaient été annoncés jusqu'à cette année.
Oui.
Et sur ces 178 projets, il y avait 39 créations de sites qui avaient été annoncées. Sur ces 39 créations de sites, il y en aurait 15 qui seraient opérationnels. Donc,
40,
on serait plutôt autour de 40%.
Voilà qui relativise.
On serait plutôt autour de 40% des créations de sites annoncés.
Opérationnels ou en cours d'être opérationnels, enfin,
On est dans une
frontière. Site industriel, en tout cas, ça prend toujours du temps.
Évidemment, ça prend du temps. Et il y en aurait 7 sur ces 40 qui auraient été abandonnés. Donc, c'est un bilan qui est positif. Voilà.
Plus largement positif.
Moi, je crois qu'il faut, saluer ce type d'initiative. C'est quand même toujours important de montrer que nous sommes attractifs. Je mettrai trois remarques. La première remarque, je le disais en aparté, c'est que un seul investissement fait la moitié, c'est celui de,
oui.
de SoftBank, fait
oui,
la
bien
moitié
sûr.
Du total. Voilà, c'est la première, mais on ne va pas bouder notre plaisir, on a été... On
c'est quand même le contrat du siècle, pardon,
le deuxième
chiffre
point
est colossal.
Sur lequel et il faut prêter attention, c'est que, d'après les déclarations même d'Emmanuel Macron, les 8 précédents Choose France avaient amené à la création de 50 000 emplois. Là, on parle de 15 000 emplois pour un chiffre supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu en emploi décroît, et c'est bien naturel, puisque on est là sur des data centers.
Oui, ça, on va y venir, effectivement. Ouais.
Et donc, la création d'emplois...
une des critiques.
Oui.
Et qu'il y a des investissements, mais pas assez d'emplois.
Une troisième critique, peut-être plus forte que je ferai, c'est qu'on ne fera en fin d'année que le deuxième sommet Choose France en France.
France, oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préoccupation de privilégier nos entreprises françaises, elle n'est apparue que très récemment par rapport au lancement de Choose France. Et c'est un sujet, j'ai été très frappé par ce qu'on appelle les stratégies d'évitement.
C'est-à-dire?
Un concept qui consiste à ne pas investir en France quand on est une entreprise française et à préférer s'implanter à l'étranger.
Ah oui, mais on va chercher la croissance là où elle est, Hervé Neuville.
Oui, oui, on pourrait la chercher en exportant.
Et la rentabilité des capitaux aussi.
Le vrai sujet, c'est qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises françaises qui sont un peu plus lourdes. Quand je dis un peu, c'est parce que on est tôt le matin.
C'est une méthode.
Qui sont un peu plus lourdes qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cercle des entrepreneurs engagés. C'est-à-dire de tous les entrepreneurs qui se disent prenons la parole, montrons que l'entreprise est le vecteur de croissance unique et obligatoire, signons la charte des entrepreneurs engagés. C'est cela à quoi je m'emploie. Ça ne fait pas disparaître les contraintes, mais ça amène à la mobilisation.
Christian.
Oui, c'est sûr que les projets qui sont annoncés bénéficient aussi d'un certain nombre d'avantages sur des taxes ou des choses comme ça, ce qui facilite la vie. Et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire Hervé, évidemment, sur le fait que les entreprises françaises, elles, quand elles font finalement le même projet, bah, elles ont droit à toutes les taxes.
Elles sont peut-être moins subventionnées.
Elles sont moins subventionnées, mais...
Et la bureaucratie en occupe plus.
Voilà. On sait combien... Est-ce qu'on a le chiffre des subventions pour tous ces projets? Parce qu'en général, ça se chiffre en milliards quand même derrière aussi.
Je pense que ça doit être difficile à déterminer.
On est plus discret.
Dit à voix basse, Hervé Novelli, d'ailleurs, en l'église.
Oui, mais ça chuchote. Non, mais pardon, mais la guerre des subventions, on va y venir en deuxième partie, en seconde partie d'émission. Chine subventionne absolument massivement son industrie. La guerre commerciale se joue là-dessus aussi.
Qu'est-ce que ça met en exergue? Ça met en exergue que les entreprises françaises, elles sont toujours fortement pénalisées. On ne va pas reparler à nouveau des impôts de production, mais enfin bon, je le fais quand même.
Oui.
Et pourraient faire certainement beaucoup plus si on pouvait bénéficier des mêmes avantages que ces entreprises-là. Mais encore une fois, je ne critique pas du tout le sujet. C'est très bien, on fait venir des entreprises. Oui, les data centers, on en reparlera certainement, créent moins d'emplois, mais enfin, en emploi indirect, en dynamique, des régions, surtout que ça s'implante là pour
Raphaël.
Le coup, pas dans les villes, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont très positives. Donc encore une fois, voyons le verre à moitié.
Je voudrais dire un point très important
qui a été dit
par un des plus hauts responsables français, pour ne pas le dire, autour de plus hauts responsables sur l'attractivité, c'est que ce qui est prévu, les task force qui s'organisent pour attirer les investissements étrangers, il n'existe pas de task force pour les investissements français en France. On s'est aperçu de cette grande lacune.
Oui, mais autrement, on peut dire, Hervé Novelli, que c'est le job des chefs d'entreprise français d'investir pour développer leur entreprise. On n'a peut-être pas besoin de l'État.
Que l'État s'en préoccupe aujourd'hui, alors qu'il déroule le tapis rouge, et c'est très bien pour les investissements étrangers, que l'État s'en préoccupe, pourquoi pas? En tout cas, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important.
Et c'était plutôt un beau succès, mais c'est un exercice de communication politique aussi, Choose France en France. Est-ce que l'IA, Thomas Grébin, est la nouvelle industrie du 21e siècle? Est-ce que les data centers deviennent les hauts fourneaux du 21e siècle? Est-ce que c'est ça qui va permettre de relancer le tissu industriel français?
En tout cas, c'est fondamental d'un point de vue de souveraineté et ça va devenir fondamental de maîtriser la chaîne de valeur de l'IA d'un point de vue économique. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de discours. Est-ce qu'il faut attirer les data centers? Est-ce qu'il faut attirer les centres de données, de calcul? Est-ce qu'on possède, comment on fait pour avoir du cloud? Tout ça, en fait, on voit bien que on est encore, enfin, c'est difficile. Quand on regarde sur quand on regarde sur l'IA, alors il y a des annonces qui sont spectaculaires et c'est en effet une excellente nouvelle. Donc si on prend depuis un an,
oui, les annonces, l'accélération est quand même absolument dingue.
Elle est dingue. On est
en chiffre en dizaines de milliards à chaque fois.
On est même entre 150 et 190 milliards d'euros qui sont annoncés. Si on compare. Si on compare avec les Allemands, on est plutôt autour de 10 ou 20 milliards qui ont été annoncés. Alors après, il y a les annonces et il y a
Il y a les effets d'annonce et puis il y a le réel aussi.
Il y a les capacités qui sont déjà annoncées. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui est déjà annoncé en data, qui est déjà effectif en data center, la France est plutôt en troisième position au niveau européen, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais en tout cas, en termes de dynamique, c'est une excellente nouvelle. Donc ça,
Ça veut dire qu'on va quand même... Alors, si je compare la France et l'Allemagne, là, pardon, Thomas Grébin, de vous interrompre, mais ça veut dire qu'on va les dépasser très rapidement, quand même.
Bah, c'est des investissements,
peut-être même
par
le
UK. Exemple, ce qui a été annoncé, c'est jusqu'en 2031. Donc, il y a une montée en puissance progressive.
C'est demain, 2031.
C'est demain. Et l'autre point qui me semble important, c'est que... c'est un bond en avant de l'Europe, mais il y a quand même un retard assez significatif par rapport aux États-Unis.
Aux
États-Unis, c'est 500 milliards qui ont été annoncés.
Mais donc, on n'y est pas encore. On accélère. Hervé Novelli, puis Christian Poyon.
Il y avait une grande différence, c'est qu'il y avait des ouvriers.
Oui.
Là, dans ce qu'on appelle les hauts fourneaux du 21e siècle, ça crée peu d'emplois intrinsèquement. Alors, bien sûr, il y a toute la diffusion,
ruissellement, comme on dit aujourd'hui,
qui peuvent en résulter. Mais quand on regarde les créations d'emplois dans les data centers ou autres, ça se chiffre à quelques centaines d'emplois.
Après, il y a des services.
Donc, parler de hauts fourneaux, c'est aussi.
Oui. Est-ce qu'on sait où va aller cet argent d'ailleurs? Parce que bon, on annonce 45 milliards, mais le matériel informatique, les murs, le béton qu'on va construire autour, ok.
Bah, vous avez vu Schneider,
français,
hein,
mais Schneider, alors c'est 5 milliards.
Il a fait un bond, puisque. Oui. Alors, sur cette notion d'IA, qui est une notion complexe, donc impossible à résumer en quelques mots, et personne, je pense, peut avoir une vision exhaustive du sujet. Bon, la chaîne de valeur est très large. Là, on parle d'un. Je sais pas, c'est un petit bout, en tout cas, une portion de la chaîne de valeur. Hein, les data centers, ok, c'est l'endroit où on va stocker les data. Mais ça ne prend pas du tout en compte la partie traitement, la partie analyse, la partie data, enfin, et vu de ma fenêtre, étant quand même dans ce secteur-là, la plus forte valeur ajoutée, elle est quand même sur ce qui est en aval, si je veux dire, sur les jeux du ciel d'IA, et surtout la data, hein, c'est à chaque fois ce que je dis. Bon, maintenant qu'il y ait des data centers en Europe et spécifiquement en France, très bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai les mêmes informations sur le fait que la France est quand même en retard, enfin en tout cas n'est pas numéro un en Europe, elle est derrière l'Angleterre et derrière l'Allemagne. Bon, ok, bon, on avance bien d'une manière générale. Donc ça ruisselle sur ces sociétés électriques, et après, il faut... C'est un point fort aussi par le... Pourquoi ? Parce qu'on a cette énergie décarbonée avec l'industrie nucléaire.
Il faut expliquer ça. Le patron de SoftBank l'a dit. Hein, l'avantage compétitif de la France, c'est très clairement...
Donc, profitons-en.
L'énergie disponible.
Mais donc, c'est une bonne nouvelle, oui. Est-ce que c'est parce qu'on aura ces data centers en France qui vont monter en puissance qu'on règle le problème du pilotage de la chaîne de valeur de l'IA? Non, on en est relativement loin, bien évidemment. Donc, il y a plein d'endroits où il faut chercher à avancer. On ne maîtrisera jamais l'intégralité de la chaîne de valeur. Personne ne la maîtrise, d'ailleurs, ni les États-Unis, ni les Chinois, ni qui que ce soit. Détectons les points clés sur lesquels il faut effectivement, il est significatif d'avoir un footprint important et un moyen de pression pour des choses, ça fait clair, assez significatif. Les data centers en sont un, c'est pas non plus le sujet... vu de ma fenêtre, primordiale par rapport à cette fameuse chaîne de valeur.
Bon, il n'y a pas que les data centers. Hein. Alors, c'est vrai que l'annonce spectaculaire de SoftBank fait que ça éclipse un petit peu tout le reste, mais vous avez par exemple la Syrie, Marseille Gaglia, première ouverture d'Assyrie depuis 50 ans en France.
Est-ce qu'on a un haut fourneau.
On a aussi les hauts fourneaux, voilà, exactement. Donc, pardon, mais est-ce que c'est un changement, Thomas Grébin, de cycle industriel? Est-ce que, plus globalement, on est en train de changer de regard sur la France.
Je pense que sur l'IA, c'est clair que les nouvelles sont excellentes. Sur le reste, c'est beaucoup plus mitigé. C'est-à-dire que depuis deux ans, on est rentré dans une phase où il y a plus de destruction de sites industriels que de création. On a fermé un peu la parenthèse très très positive qui a existé entre 2018 et 2024, où il y avait eu près de 180 000 emplois industriels qui avaient été créés. C'était un peu la plus longue phase depuis une quarantaine d'années de création d'emplois industriels. Donc malheureusement...
Qu'est-ce qui a cassé cette dynamique ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part eu plusieurs chocs très importants sur l'économie mondiale, que ce soit la crise Covid, où il y a eu beaucoup de sites de production qui ont été arrêtés et ensuite qui ont peu réouvert. Ensuite, il y a eu un choc de demande négatif. La croissance européenne est relativement atone. Vous avez eu le choc énergétique aussi qui pénalise fortement l'industrie européenne. Et puis finalement, et de plus en plus, vous avez ce rouleau compresseur chinois qui menace des pans entiers de l'industrie européenne et qui, je pense, va rendre très difficile des investissements dans la sidérurgie dans les années qui viennent.
Oui, ça, on va en parler. Vous croyez à un renouveau industriel en France, Hervé Neubuhl ?
Oui, j'y crois. À condition que là aussi, on utilise ce qui va révolutionner dans les mois et les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle les agents IA. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent multiplier par 10 la productivité dans l'industrie. Pensez à l'industrie automobile.
Par 10 ?
Oui, et ça leur redonne un espoir. Ça redonne un espoir à un certain nombre d'industries qui sont très inquiètes, l'industrie automobile française par exemple. Mais là, c'est très intéressant qu'une acierie Orange Suite annonce une ouverture. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on peut réintroduire de la compétitivité dans des métiers industriels qui semblaient voué à disparaître parce que concurrencé.
Quand le marché est protégé aussi.
Ce qui est très important, c'est l'innovation plus que la protection, cher Raphaël.
Oui.
Et l'innovation, elle est là, elle est à l'œuvre. J'ai vu de manière très concrète des IA, des agents IA dans l'ingénierie, donc dans tout le monde industriel qui sont aujourd'hui en voie d'être finalisés du côté de la Silicon Valley et qui arrivent en France.
Bon. Et encore faudra-t-il que, Christian, qu'on arrive à sauvegarder toutes ces entreprises après.
On a cité avec raison, bien sûr, centre de choc. Sur tous ces chocs, tous sauf un, en fait, tous les pays les ont subis. Voilà, le Covid, la crise énergétique, etc.
Donc bon, ce sont des chocs exogènes, comme on dit, qui frappent tout le monde, effectivement.
Et puis il y en a un, le dernier, où là, pour le coup, on est les neuneux de la classe, quoi. Je veux dire, donc c'est le rouleau compresseur chinois, je reprends l'expression qui a été dit. Donc le fait que l'Europe et la France, enfin l'Europe, disons, ne sait pas se défendre par rapport à ça. Donc je pense que c'est quand même un sujet majeur, moi, pour avoir aussi, à travers le MEDEF, beaucoup de contacts vis-à-vis des entreprises, c'est quand même quelque chose qui ressort très souvent, de voir, on voit arriver des produits, somme toute, de bonne qualité, à des prix totalement déconnectés des coûts français, etc.
Mais très subventionnés, oui. Donc, on en parlera dans la seconde partie de l'émission.
Et ce sujet-là, on va en parler, mais c'est quelque chose où on peut faire des choses. Voilà, hein, la crise énergétique, bon, la contrôler, c'est beaucoup plus difficile. Mais lutter contre cette concurrence totalement déloyale des Chinois, on peut faire des choses.
On est, Thomas Grébine, en deçà de ce qui se pratique au niveau international en termes de subventions. Je me souviens d'une note passionnante de Rex Ecotte qui disait que la guerre maintenant commerciale se jouait autour des subventions en réalité et que les États, c'est aussi un sujet de souveraineté économique, de défendre ces entreprises, subventionner massivement, de plus en plus, leur boîte nationale, ce que ne faisait pas assez l'Europe. Partagez cet avis.
Oui, mais c'est plus difficile, d'une part, quand vous avez des réglementations qui limitent ces subventions pour ne pas distordre...
La commission surveille,
les aides d'État. Il y a une interdiction des aides d'État dans les traités européens.
Assoupli, alors on a monté les pieds. Quand
vous avez des marges de manœuvre budgétaires aussi faibles dans un pays comme la France, par exemple.
C'est peut-être ça le véritable problème, finalement.
Dans les annonces de restrictions budgétaires qui ont été annoncées, il y a des coupes dans France 2030. Donc France 2030, ce n'est pas forcément que des subventions, mais on voit bien que c'est censé être des projets pour favoriser
c'est un peu de l'amorçage,
l'industrie européenne. Et on voit bien que dans une période de disette budgétaire, on coupe plus facilement ça que les pensions des retraités.
Eh oui, évidemment. On vous le demande, ça, dans votre mouvement, Hervé Novelli, de subventions, plus... Parce que, bon, les entreprises qui critiquent le trop d'impôts, mais qui viennent chercher des subventions derrière
c'est
une forme de dissonance parfois coupable.
Oui, c'est même la raison de mon engagement avec les entrepreneurs. C'est qu'on ne demande pas d'aide. Ce qu'on demande, c'est que la fiscalité soit favorable et accompagne le développement des entreprises. On a, ces aides, elles viennent souvent, le plus souvent, compenser des handicaps créés par l'État lui-même.
Oui.
Rappelons-nous des allègements de charges.
Pour faire les allègements de charges, bien sûr.
Les allègements de charges, il y a une mobilisation très forte du patronat pour protester. Moi, je préférerais qu'aujourd'hui, on fasse un véritable bilan de ces allègements de charges, 80 milliards.
Oui.
C'est pas l'épaisseur du trait.
Oui.
Et qu'on fasse ce bilan parce que c'est un empilement successif d'allègements qui étaient venus compenser les 35 heures, le coût du travail au niveau du SMIC. Est-ce qu'on a créé des emplois peu qualifiés dans ce pays ?
Oui. Après, ça a très bien marché dans les années 90-2000, quand même.
Oui, regardez le taux de chômage.
Le problème, c'est la smicardisation de la société qui en découle.
Des travailleurs peu qualifiés, il est supérieur au taux de chômage des travailleurs qualifiés. Vous n'avez pas une efficacité telle qu'on puisse dire cette politique a empêché.
Non.
Aujourd'hui, oui.
Mais elle a amoindri.
Elle a amoindri.
C'est mieux que si c'était pire.
Mais aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer un avantage compétitif. C'est pas comme nous bénéficions dans l'industrie nucléaire. C'est pas de gommer un handicap ou de tenter de le gommer.
Un environnement favorable. Christian Poyot, puis Thomas Gavin.
Alors moi, je ne peux aller que dans ce que vient de dire Hervé Novelli. Et c'est pas seulement une réaction de l'entrepreneur que je suis, mais dans tous les cercles dans lesquels je suis, MEDEF, Croissance Plus, etc. Le truc, c'est fichez-nous la paix. On ne veut pas de subventions. On demande simplement à être aligné sur la fiscalité de nos concurrents européens. Européens, hein, on ne parle pas de s'aligner sur je ne sais pas trop qui. Alignez-nous sur les concurrents européens. On pourrait parler du temps de travail. Je suis toujours heureux d'entendre que les 35 heures nous coûtent toujours aujourd'hui 15 à 20 milliards d'allègements de charges, parce que sinon, de toute façon, on serait planté. Voilà. Donc, non, pas de subventions. Les chefs d'entreprise n'ont jamais demandé des subventions. Ils n'en veulent pas par principe.
Ça peut leur arriver de temps à autre, Christian Pouillot, si on est tout à fait honnête.
Non, Raphaël Lejeune, non, je suis fermé là-dessus.
Quelques
simplement.
Filières spécialistes de demande d'aide publique.
Mais parce qu'on
n'a
pas du tout la même fiscalité qu'on nos petits copains. Simplement, qu'on soit aligné sur eux, ni plus, ni moins. Voilà. Fichez-nous la paix pour ne pas être plus vulgaire dans mon propos.
Thomas Grabine.
Ce qui me semble aussi intéressant quand on parle de ces annonces sur l'IA, c'est le fait qu'il y a eu une forme, d'une part, de déréglementation avec les espèces de fast-track qui ont été faits sur l'IA, qui permettent à ces investisseurs d'avoir un accès beaucoup plus rapide au réseau électrique.
Oui.
Et que d'autre part, il y a eu une forme de planification sur le réseau électrique. Ce qui fait en partie le succès aujourd'hui de Dunkerque, c'est qu'on a planifié le fait qu'il y aurait des besoins électriques plus importants dans cette région. Et donc, on a essayé de densifier ce réseau électrique. Et donc ça, je pense que c'est aussi, il faut le souligner, au-delà de la question purement financière.
Oui, non,
il y a eu une partie d'anticipation. Et c'est ceux dont profite.
C'est assez rare pour qu'on le souligne, effectivement.
Exactement.
Et on voit que ça fonctionne surtout. Ouais. C'est quand même l'argument principal aujourd'hui. C'est notre électricité qu'on va pouvoir dégager de manière massive, décarbonée et compétitive.
Je rappelle qu'une partie, certains partis politiques,
Merci,
que je ne citerai pas évidemment, sont toujours contre l'énergie nucléaire. Enfin bon, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat.
Oui, mais de moins en moins. Hein. Enfin, quand même, on le voit, y compris chez les partis écologistes européens.
Il était temps de virer sur l'aile.
Ouais. Je voulais juste. Après, un avantage aussi qu'ont nos amis américains par rapport à ça, c'est le fait que l'État sait se désengager et laisser des entreprises privées développer leur activité. Bon, on en parle tous les jours quasiment, regardez SpaceX, Blue Origin, etc.
Oui.
La NASA a dit, ok, moi je ne vais pas finalement avoir la capacité ou la fluidité d'être très performant là-dessus. Donc, je subventionne pour le coup. Enfin, je subventionne. Je sais pas si c'est subvention ou si c'est acheter des services. Enfin, les deux se rejoignent peut-être. Mais en disant, OK, on laisse des entreprises privées développer le secteur du spatial. Ce qui, encore, il y a peu de temps, semblait complètement aberrant. Le spatial, c'était l'État, ça devait être contrôlé, etc. Et on voit la réussite quand même de tout ça. Et pareil, derrière ce que ça génère comme retombée sur toutes les technologies qui sont adjacentes par rapport à ça. Donc, ce qui manque aussi en France, en Europe, mais spécialement en France, c'est que l'État dise « Ok, sur tel ou tel sujet, non pas je me désengage dans le sens je m'en occupe plus, mais en tout cas je laisse les entreprises prendre le point et les développer. Et on a pour le coup des tas d'entrepreneurs, des tas d'entreprises en France qui ne demandent que ça. Donc on a les capacités d'avancer. Donc ayons aussi cette logique-là dans le développement de notre pays.
Je voulais un dernier mot avec vous, Christian Poyot, sur l'actualité de l'IA. C'est aussi les levées de fonds gigantesques qui arrivent. Anthropic a déposé sa demande d'IPO à la SEC cette nuit. On parle de, enfin, à chaque fois, tout comme SpaceX, etc. C'est 1000 milliards, hein, je veux dire, à chaque fois, les valorisations avancées. Google, qui là va lever sur le marché actions 80 milliards de dollars il y a quelques jours. C'est OpenAI qui levait 65 milliards aussi.
En dette privée, oui.
En dette privée, bon, ouais. Est-ce qu'on est encore dans la course, nous, Européens ? On attire les capitaux étrangers, super. Est-ce qu'on est encore dans la course face à ces mastodontes de l'IA ?
Encore une fois, sur cette chaîne de la valeur de l'IA que j'évoquais tout à l'heure, il y a des sujets où, je ne dis pas que le jeu est fait, parce que vous savez, les technologies, ça évolue, qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, etc. Mais bon, il y a des points, on ne va pas recréer un Google, vous voulez, enfin, des choses comme ça, bon. Par contre, d'autres, on a la capacité d'or, on ne va pas citer tout le temps Mistral, mais enfin, c'est vrai que c'est une réalité. Oui. Et puis encore une fois, la data qui est le moteur de tout ça, enfin l'essence de tout ça. On peut avoir le moteur, si on n'a pas l'essence, ça ne sert strictement à rien.
Le marché des capitaux européens est une ardente obligation.
Voilà, oui, qui traîne. Hein.
On parle de levée d'argent, on attend toujours. Hein. Faudrait-il pouvoir le faire en Europe? La profondeur, comme on dit,
la profondeur du marché.
Du marché des capitaux est faible en Europe par rapport aux États-Unis.
Par rapport à ce que font les très grands, les big tech, c'est sûr qu'eux-mêmes, qui ont des capacités financières énorme, se retrouvent par ça des besoins d'investissement absolument monstrueux. Donc, ça y est, ils font appel à la dette privée ou la dette publique avec les IPO qui arrivent. Bon, certains s'en inquiètent. Maintenant, encore une fois, faire le comparatif par rapport à l'an 2000, ce qui est fait souvent à ce qui se passe à l'heure actuelle, pour moi, n'est pas le bon. On a quand même des industries qui ont quand même un chiffre d'affaires. Enfin, j'ai plus en tête le chiffre d'affaires Anthropic, mais enfin, c'est des dizaines de milliards.
Oui.
Voilà, bon.
Oui.
Donc, bon, on est à un moment de bascule très fort sur toutes ces nouvelles technologies. Et c'est sûr que ceux qui n'investissent pas, à un moment donné, vont se retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Donc, choisissons nos combats. On a des choses à faire. On ne peut pas se battre partout, mais on a des points forts sur lesquels il faut appuyer.
On a des choses à faire. On a des atouts. On a fait un formidable Choose France. Et en plus, la croissance française a été bien meilleure que prévu ces dernières années, figurez-vous. Eh ben oui, et personne n'en parle pourtant. C'est bien dommage. Mais on va le faire dans la seconde partie de l'émission. On se retrouve dans une minute. Et puis, on va parler aussi des voies et moyens pour contrer les surcapacités chinoises. Il se passe des choses à Bruxelles, mais aura-t-on le courage d'affronter les empires ? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business avec mes trois experts du jour, Christian Poyot, Hervé Novelli et Thomas Grébin, pour parler croissance. C'est plutôt une émission bonne nouvelle ce matin et ça fait plaisir parce que c'est pas tous les jours quand même. 93 milliards de promesses d'investissement, on l'a dit, recensées hier à Choose France. La France attire les capitaux étrangers et c'est tant mieux. L'autre bonne nouvelle du jour qui est passée totalement inaperçue, c'est la révision de la croissance par l'INSEE des années passées. Alors, c'était vendredi dernier. On a simplement retenu que l'INSEE avait révisé à la baisse la croissance du premier trimestre. On croyait que c'était zéro. L'INSEE a révisé à -0.1. On est dans l'épaisseur du trait, mais quand même, l'économie se contracte. Ce qu'a vu Anthony Morlet-Lavidali, je veux le citer, économiste chez Rex et Code et invité régulier, il sera là en fin de semaine, invité régulier des experts, c'est que l'INSEE a massivement révisé la croissance française de 2023 et 2024. Thomas Grébin, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup mieux que prévu.
Oui, on a fait mieux que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très difficile.
Ah ben non, mais ne gâchez pas avec une mauvaise nouvelle tout de suite, Thomas.
Non, c'est pas une mauvaise nouvelle.
Allez, commençons par les bonnes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ça montre la difficulté d'être statisticien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La plus grosse révision, c'est en 2023. Donc, on est en pleine période inflationniste. Or, quand l'INSEE mesure la valeur ajoutée, le PIB, elle le fait en valeur. Et oui. Ensuite,
c'est-à-dire avec l'inflation.
Et ensuite, il faut corriger justement il faut corriger de cette inflation pour obtenir des volumes. Et c'est très compliqué parce que en période inflationniste, où les prix évoluent différemment selon les secteurs, et donc c'est compliqué de faire cette correction. Une autre difficulté, c'est donc la valeur ajoutée. Il faut prendre en compte les consommations intermédiaires. Et là aussi, lorsque vous êtes dans une période inflationniste où il y a beaucoup de choses qui bougent et qui bougent différemment selon les secteurs, là aussi...
Y compris des ruptures de supply chain, etc. Exactement. C'était une période très compliquée.
Ces consommations intermédiaires sont aussi très difficiles à mesurer, à bien prendre en compte. Et la majeure révision qui a eu lieu, donc c'est sur le PIB, et plus spécifiquement, c'est sur la valeur ajoutée du secteur manufacturier. Donc ça, c'est là où ça a été...
C'est ça la bonne nouvelle.
Ex post, une bonne nouvelle, c'est que par rapport aux prévisions, aux premiers chiffres de l'INSEE, il y a 5 points de différence sur la valeur ajoutée du secteur manufacturier, en particulier parce qu'on avait un peu sous-estimé les chiffres dans l'aéronautique.
Donc, bon, c'est encore une fois, c'est aussi ça qui plombe le résultat du premier trimestre d'ailleurs, c'est les retards de livraison d'Airbus. L'aéronautique pèse très lourd. Ouais.
Donc c'est une mauvaise nouvelle. Après, aujourd'hui, quelques années après, bon, c'est pas ça qui change fondamentalement la réalité de l'économie française. En tout cas, on allait mieux que ce qu'on pensait à l'époque.
L'autre bonne nouvelle, c'est ce que nous dit aussi Anthony Morlet, la Vidali de Rexecode, c'est que la part de l'industrie dans le PIB repasse au-dessus des 10%. Alors, je rappelle qu'en un quart de siècle, on est passé grosso modo de quasiment 20% à moins de 10%. Hein. C'est le résultat de la désindustrialisation. Là, on repasse juste au-dessus une barre symbolique. On continue dans l'esprit des hauts fourneaux, Hervé Novelli.
Oui, il n'y a pas de quoi. On était à 9,5, on passe à 10,5. Compte tenu des marges d'erreur, parce que je veux quand même... L'INSEE est un institut extraordinairement réputé.
On a parmi les meilleurs statisticiens du monde, il faut saluer leur travail.
Et qu'il y ait des erreurs à ce niveau montre que, comme l'a dit notre ami, la chose est difficile.
Donc, il
faut relativiser aussi cette remontée, ne pas en faire une remontée symbolique sur le thème « c'est fini, on réindustrialise, c'est bien parti ». Non.
Non, mais pardon. On passe de 1 à 2% de croissance en 2023. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement.
Vous avez raison.
Christian Poyola, mais il faut la volonté, sortir, l'optimisme de la volonté. Comme
sur
disait l'autre.
Bon.
Non, mais pardon. En fait, le sujet de fond, les amis, c'est quand même depuis 2024, la dissolution. On n'arrête pas de dire que la croissance va être catastrophique. On a fait mieux que prévu l'année dernière. On a dit que la crise inflationniste avait été catastrophique. Les Français ont été massivement protégés. Et on voit que l'économie française a fait deux fois mieux que prévu, c'est pas rien quand même. Et aujourd'hui, eh bien, on voit d'excellents résultats sur l'attractivité. On est en train d'expliquer qu'on va probablement vers une récession technique. Je trouve qu'à chaque fois, on se fait un peu les porteurs des messages de malheur et que les entreprises sont hyper résilientes, en réalité.
Oui, alors, avant de revenir là-dessus, justement, Marc, sur l'industrie. Bon, c'est vrai que l'industrie a fortement baissé pendant ces 10-20 dernières années. N'oublions pas aussi qu'il y a eu beaucoup d'externalisation. Donc, comparer les deux chiffres de 20 et de 10, c'est un petit peu faux. Maintenant, l'industrie a fortement baissé et c'est dramatique en France. Bon. Après, est-ce que les entreprises sont devenues plus résilientes? Oui, c'est indiscutable. Enfin, entre le Covid, l'Ukraine, je parle même pas des gilets jaunes avant, l'énergie, là maintenant l'Iran et compagnie, elles se sont mitridatisées, comme on dit souvent. Voilà, à force d'avaler du poison, elles sont un petit peu.
Elles se sont renforcées. La permacrise les rend plus résilientes, plus agiles,
d'être plus souples, d'être. Alors, des fois, c'est au détriment de l'investissement parce qu'effectivement, être plus agile, ça permet pas de dire ok, on a fait un investissement de très long terme, des choses comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de positif. Mais où est la surprise? Est-ce que le tissu économique français est de grande valeur? Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France. Il y a une volonté de se développer. On a des secteurs dans lesquels on est très performant. On a des grandes entreprises, le CAC 40, malgré le fait que certains passent leur temps à taper dessus, qui sont vraiment au niveau mondial très bien implantés. Donc voilà, on a plein d'atouts, encore une fois. Donc je suis, moi aussi, tout à fait d'accord pour dire, regardons le verre à moitié. moitié plein. On est dans une période compliquée. La politique française, pour le coup, n'aide pas. Ça, c'est évident, et on verra ce qui se passe en 2027. Mais oui. On a les capacités. Mais peut-être la conclusion de tout ça, c'est aidons les entreprises. Enfin, aidons les entreprises ou libérons-les.
Moteur de la prospérité nationale.
On va dire un mot là-dessus. C'est que, il y a aujourd'hui une fibre entrepreneuriale en France. Ça n'a pas toujours été le cas.
On n'a jamais créé autant
d'entreprises. Quand on interrogeait les Français, la majorité des jeunes étudiants, ils voulaient être fonctionnaires. Aujourd'hui, ceci s'est inversé. On souhaite créer son entreprise. Donc la diffusion de l'entrepreneuriat dans la société française est une chose acquise. Et avec ça, l'opinion change son regard sur l'entrepreneur. Avant, c'était l'accapareur. Pour faire simple ou caricatural. Aujourd'hui, ça devient une sorte de héros. On n'est pas encore totalement parvenu, mais il est parmi l'entrepreneur et vu par l'opinion publique comme une des personnalités les plus sympathiques ou porteurs de positifs. Et c'est une très bonne chose, il faut continuer. Et c'est pour ça que je me bats aussi. Hein.
Vous parliez de l'opinion publique. Moi, c'est un article de l'Opinion signé Marc Vigneault qui m'a alerté sur ce sujet. Vous pouvez aller le lire. C'est aujourd'hui dans le journal. Je souligne un dernier point. Hein. On a aussi fortement révisé la dynamique d'investissement des entreprises et la baisse de la productivité qui est moins grave que prévu. Donc finalement, c'est quand même vachement mieux. Et c'est tant mieux. Je voulais qu'on en parle ce matin. Thomas Grébin, je me tourne vers vous pour le dernier sujet. Il est 10h09. On est toujours ensemble hein, pour une petite vingtaine de minutes sur un débat absolument majeur. Vous avez commis avec deux autres économistes un rapport pour le Haut Commissariat au Plan sur le sujet qui a fait beaucoup de bruit. Donc on continue de parler aujourd'hui sur les moyens de se défendre commercialement face à la vague chinoise. Aujourd'hui, c'est l'OCDE qui tire la sonnette d'alarme sur, je cite, une concurrence très déloyale des entreprises chinoises face aux pays de l'OCDE. On voit bien que le ton monte. Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord ? Est-ce que vous pouvez nous dresser les principaux enseignements de ce rapport ?
Bon, ce rapport, il est sans surprise, mais c'est intéressant que...
Il donne des chiffres intéressants quand même.
Il donne des chiffres intéressants, mais c'est intéressant que l'OCDE, qui était une institution très prudente...
Porteur de libre-échange et de la concorde internationale, normalement.
On sort des chiffres sur, en effet, les aides massives accordées par les autorités chinoises à leurs industries, presque 6 fois supérieures à ce que font les pays de l'OCDE. Ils ont aussi un autre chiffre intéressant, c'est que quand on regarde les gains de part de marché à l'international des industries chinoises, 60% selon eux s'expliquerait par ces aides massives. Donc c'est quand même spectaculaire. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la rapidité du changement de logiciel. C'est-à-dire que ce soit les institutions internationales qui mettaient un voile pudique sur ces questions pendant des années. Vous avez évoqué aussi Bruxelles. C'était quand même assez extraordinaire qu'à Bruxelles, vendredi dernier, on discute quand même des moyens très forts pour contrer le rouleau compresseur chinois. Le président de la République, Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, a proposé, par exemple, l'instauration au niveau européen d'une section 301 à l'américaine.
Inspirée, du modèle américain.
Le fait que vous puissiez prendre des représailles, non plus seulement sur un bien particulier, mais pour défendre des secteurs entiers. Et donc là, véritablement... Alors, on peut dire que pour l'instant, ça n'est pas opérationnel. Mais on voit en tout cas dans le débat européen, dans le débat international, les choses évoluent quand même assez rapidement.
Les commissaires ont été mandatés vendredi à la suite de séminaires pour faire des propositions à un conseil, pour le prochain conseil, fin juin, des chefs d'État et de gouvernement. Ce qu'ils proposent, c'est d'abord de fermer le marché dès qu'il y a une menace de dumping et ensuite de mener enquête plutôt que d'abord faire une enquête et de fermer au bout de 9 mois et de traiter de filières entières plutôt que d'entreprise par entreprise. Christian Poyot.
Moi, j'avoue que je découvre que la Chine faisait la concurrence déloyale. Je ne savais pas du tout, je n'étais pas au courant. C'est vraiment surprenant. Non, mais de qui se moque-t-on ? Je suis d'accord avec votre analyse.
On prend la mesure de l'ampleur.
Attendez,
7 fois plus d'aide publique que les entreprises européennes.
Évidemment, mais quand on dit, où je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, la rapidité de réaction, mais de qui se moque-t-on ? Ça fait 20 ans qu'on le sait. Ça fait 20 ans. Le fait que les Chinois se comportent de manière déloyale profitent d'avoir été être rentrés dans l'ONC, mais parler à n'importe quelle entreprise, ils le savent depuis très longtemps. Donc, les institutions européennes se réveillent. On est le 2 juin 2026. Ah, quelle surprise!
La différence, c'est qu'ils n'ont pas monté en gamme et que maintenant, ils sont plus innovants que nous et viennent nous tailler des croupières sur les voitures, sur les panneaux solaires, sur les batteries,
etc. Oui, mais les panneaux solaires, ça ne date pas d'il y a 5 minutes quand même, les panneaux solaires. Et avant, alors peut-être que maintenant, ils attaquent sur toutes les industries. Avant, il y avait des secteurs entiers qui étaient déjà attaqués d'une manière générale.
Alors, changement, c'est ce que vient de dire Raphaël, c'est l'innovation. Pendant des années, on avait vécu sur l'idée d'une Chine qui copiait et qui n'innoverait pas.
Oui, et puis
ça date pas d'il y a 5 minutes.
Non, bien sûr que non. Voilà. Mais c'est quand même un changement qui s'est passé. Et puis il y a surtout, comme l'a dit Christian, il y a aujourd'hui un problème avec l'OMC. La Chine est rentrée dans l'OMC.
Oui,
L'OMC, c'est aussi une somme de règlements. C'est aussi le règlement de conflits commerciaux et d'atteinte.
Et la Chine a été condamnée l'été dernier sur de la propriété intellectuelle.
Oui, sauf que l'OMC aujourd'hui est rendue dans l'incapacité d'agir, a été profondément affaiblie par la position américaine, qui a consisté à bloquer un certain nombre de choses à l'OMC. Il faut des règlements internationaux si on veut. On ne peut pas uniquement.
Mais Hervé, est-ce que c'est fini ce temps-là? Non. On est
Empires maintenant. Il faut faire comme les Chinois.
Est-ce qu'il y a encore des règles internationales?
Il faut faire comme les Chinois. Vous vous rappelez pas cette intervention de Xi Jinping à Davos il y a quelques années qui disait qu'il avait fait un plaidoyer pour le libre-échange? Il y a la main gauche qui vous dit on va suivre l'ONC, on fait du libre-échange, tout est bien. Et puis la main droite.
Il joue la contre-programmation de Donald Trump.
Qui fait complètement le contraire. Donc faisons la même chose. C'est-à-dire continuons à effectivement à agir au niveau de l'OMC, à porter plainte. Les plaintes prennent des années. Les répercussions des condamnations, je serais curieux de les connaître. Ça doit être rien, à mon avis. Hein, voilà, on sait bien. Et à côté de ça, agissons fortement. Donc sortons de cette naïveté. Il ne s'agit pas de dire qu'on va sortir du droit international, parce qu'effectivement, la position de Trump sur certains sujets est totalement condamnable, ridicule, tout ce que vous voulez. Donc, mais en même temps, ne soyons pas naïfs. Donc oui, ça y est, l'OCDE et d'autres se saisissent du problème. Enfin, il était temps. Maintenant, ayons quelles vont être les mesures pratiques, concrètes, qui vont être prises rapidement? Moi, c'est ça que j'attends de voir.
On a été trop naïfs face aux Chinois, Thomas Grébin?
Oui, je suis d'accord. Malheureusement, cette vague chinoise, il y a eu deux vagues. Il y a eu la première vague dans les années 2000 où on n'a pas réagi de façon très insuffisante. Alors, l'argument invoqué à l'époque, c'était que c'était des secteurs à faible valeur ajoutée, comme le textile, oui. Et donc l'Europe avait vocation à être dans des secteurs.
Oui, et puis, c'était du gain de pouvoir d'achat pour le consommateur aussi.
Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Enfin, c'est ça, plus nos secteurs de pointe qui ont fait le cœur de notre création de richesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'automobile, c'est la machine-outil, c'est la chimie, c'est la pharmacie, le nucléaire, tous ces secteurs qui ont fait le cœur de la puissance européenne sont menacés par le rouleau compresseur chinois. Oui. Et c'est vrai que, alors moi quand je parlais d'un réveil, c'est relativement à l'Europe. Je suis tout à fait d'accord que cette montée en puissance, on aurait pu réagir beaucoup plus tôt, notamment dans l'acier, où on voit les très très grandes difficultés depuis des années du secteur sidérurgique, et on attend en fait qu'ils soit...
Alors je dirais, on a enfin réagi, non, sur l'acier,
réagi, mais dans un moment où l'acier est très, très, très fortement affaibli. Donc, en fait, c'est mieux de réagir quand les industries sont suffisamment fortes pour affronter la concurrence internationale. Mais il y a quand même un changement. Même en Allemagne, vous voyez dans la presse allemande, vous voyez que quand même le logiciel est en train de changer. Et moi, le risque que je vois, c'est que ça change trop lentement parce qu'il y a une divergence d'intérêts qui est très importante en Allemagne entre les grands groupes, notamment automobiles, qui sont très puissantes au cœur du
patronat. Il faut qu'on explique ça.
Chimiques aussi.
Chimiques, qui ont beaucoup investi en Chine et qui continuent d'investir en Chine et qui compte sur les ventes sur le marché chinois. Mais le problème, c'est que c'est par exemple Volkswagen qui maintenant annonce qu'elle va produire des modèles en Chine, donc avec des ouvriers chinois, des ingénieurs chinois, des sous-traitants chinois, et les produire
pour les vendre aux Européens.
Pour les exporter vers le reste du monde. Aussi. Donc, ce qui est quand même hallucinant. Et c'est là où il y a une déconnexion de plus en plus forte que nous, on avait connue en France dans les années 2000 entre les intérêts de ces grands groupes internationaux qui peuvent avoir intérêt de produire en Chine parce que c'est là où ça se passe, notamment en termes d'innovation. C'est là où les coûts de production sont 30 à 40% plus faibles que chez nous en Europe.
C'est ce pourquoi plaidait Serge Turuc à la fin des années 90 France.
Mais la grosse difficulté, c'est qu'est-ce que sera demain en Europe la création de valeur, qu'est-ce que seront les emplois de qualité
les politiques doivent intervenir. C'est-à-dire que moi, je comprends la position des grands industriels allemands, parce qu'effectivement, pour eux, c'est je dis pas que c'est une question de vie ou de mort, mais si
le
marché chinois, ils se coupent un bras ou plus. Je crois que Porsche a diminué ses ventes en Chine de 40%. Enfin, c'est complètement colossal, quoi. Je veux dire, maintenant, on voit aujourd'hui, il y a un débat pour créer le Made in Europe, là, et effectivement, ce qui freine aujourd'hui, c'est BASF.
Le débat sur la préférence européenne, etc. On a un quota de matériaux européens.
Maintenant, c'est une vision qui est, la vision politique, pour le coup, est de plus long terme. Une remarque quand même, OK, le constat semble être là à l'OCDE ou même à la Commission, mais encore une fois, quelles sont les réponses et quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce que la Commission a complètement laissé tomber son sujet de préférer systématiquement la concurrence et donc le prix faible pour les consommateurs?
Vous avez la bataille entre la DG Trade qui est toujours sur un logiciel libre-échangiste et la direction générale de l'industrie, par exemple, ou du marché intérieur qui est un peu plus protectionniste.
Politique d'arbitrer.
Et c'est aux politiques. Ça va être le sujet du Conseil, juin, effectivement. Le grand problème, vous soulignez le sujet de l'industrie automobile allemande, c'est que l'État allemand suit ce que dit BMW et Mercedes, et qu'on est en train de développer au niveau de la Commission des outils de rétorsion là, pour l'industrie. Un paquet va sortir d'ici le mois de juillet sur la tech et le numérique aussi, mais tous les États ont peur à la fois de la rétorsion chinoise et de la rétorsion américaine sur le numérique.
Vous avez raison de citer le numérique parce que c'est la même chose. C'est peut-être un sujet un peu pointu, mais il y a le SecNumCloud qui a été créé en France pour créer
la sécurité numérique sur le cloud
européen,
pour préserver
nos données. Pour l'avoir suivi de manière extrêmement proche quand je m'occupais de ça au MEDEF, nos amis allemands étaient quand même mitigés sur le sujet. Les Hollandais étaient totalement contre. Bon, mais là, ils changent aussi. Bon, voilà.
Ça avance quand même petit à petit.
Ce que j'allais dire, Raphaël, c'est que restons positifs, ça avance. Mais il faudrait qu'on passe la seconde, vous voyez, là ça y est, on a fait le constat. Ah oui, dis donc, il faut peut-être qu'on allume les phares et qu'on passe en seconde. Bon, mais allons-y.
Bon, on sait qu'on va pouvoir, oui, Thomas, passer la seconde. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, que l'Europe est tétanisée et a peur et qu'on n'ose pas s'affirmer face aux puissances et aux empires.
Non, je pense que c'est le cas. On a peur et le risque, c'est qu'on se fasse manger, que ce soit sur la tech ou sur l'industrie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur la tech, dans les années 2000, on s'est fait manger. Il y avait la stratégie de Lisbonne qui avait été annoncée.
On devait être la première économie de la connaissance en 2020.
25 ans après, on en est malheureusement très loin et on a plutôt décroché. Et puis, sur l'industrie, on a quand même dominé l'industrie mondiale pendant plus de 50 ans. Et dans tous les secteurs où on a dominé, maintenant, on est en retard sur l'automobile. Mais l'automobile, c'est 14 millions de salariés, d'emplois directs et indirects, au niveau européen.
Et 14 millions d'automobiles produites.
Et là, on a aujourd'hui presque 10 ans de retard sur les Chinois. C'est quand même extrêmement spectaculaire. Sur la machine-outil aussi, la machine-outil allemande commence à être en retard sur ce que font les Chinois. Sur les TGV, les trains à grande vitesse. Les Chinois savent faire des trains à une vitesse que 400 km/h que nous, on ne sait pas faire. Donc tout ça, c'est quand même très spectaculaire. Et donc, il y a un début de réaction européenne, mais c'est encore très faible. Donc, il faut à la fois de la protection et il faut surtout de l'innovation, de l'investissement.
Des subventions, on en parlait tout à l'heure.
Pour rattraper notre retard.
Il y a quand même un sujet, c'est que dans un jeu à trois, parce que c'est un jeu à trois, on parle de se défendre contre les Chinois, il y a les Américains, puis il y a l'Europe. Et Bismarck, dans un jeu à trois, disait qu'il faut être deux. Il y a aussi des alliances intelligentes qui peuvent être faites pour contrer, par exemple, l'IA chinoise avec ce dont je parlais tout à l'heure de l'IA, des agents IA et de l'intelligence artificielle qui nous vient de la Silicon Valley et qui progresse vraiment de manière très forte, y compris pour aider l'industrie. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision dans laquelle on peut nouer des alliances ponctuelles sur des sujets précis, parce que face aux deux, on pourra pas avoir une réponse sur la forteresse Europe quand on voit tous les atermoiements qui ont eu lieu. Vous savez, mon premier job, c'était dans la sidérurgie française. dans la sidérurgie française, je me souviens, on rédigeait déjà des notes à l'Europe pour se plaindre de la concurrence déloyale chinoise. Et on demandait que les droits anti-dumping européens soient appliqués. Et il fallait des mois et des mois. Et la sidérurgie française a disparu progressivement. Parce que le droit anti-dumping européen était inadapté, il y avait une vision qui était surannée, il faut bien le reconnaître, où on se méfiait de du gigantisme d'une entreprise européenne. Oui. On ne voulait pas d'une grande entreprise européenne, et il y avait donc une incapacité à faire grandir nos entreprises au regard d'un droit de la concurrence qui ne prenait pas en compte le monde. Et c'est parce qu'en 58, quand on a fait le traité de Rome, la mondialisation, elle n'en était pas... elle était dans les limbes.
Ça vous fait réagir hein, sur Twitter, sur mon compte @legenrat, alternance, qui nous dit les Chinois nous dépassent partout, sauf l'aéronautique. Alors, vous allez me dire peut-être que ça va pas tarder, Thomas Grébin. Le luxe italien est fait par des Chinois, les tracteurs, les voitures, matériel de construction chinois sont plus innovants et moins chers. Ils nous dominent dans l'électronique et le numérique. C'est fini. Bon, ouais, non, il va falloir nourrir un peu.
Il ne domine pas dans le numérique.
Christian Poyot, puis Thomas Gavin.
Je ne vais pas exagérer sur ce sujet, il ne domine pas dans le numérique d'une manière générale. Donc,
mais là, c'est les Américains qui nous dominent pour le coup.
Oui, c'est les Américains. Mais il faut arrêter de dire qu'on peut, encore une fois, maîtriser l'ensemble de quelque chose. Je reprends le mot forteresse où on domine tout. Il faut être souple, adaptable. On va prendre tel point. Effectivement, on va faire des accords avec certains, etc. etc.
Oui,
et arrêtons d'avoir cette vision très, très théorique. Parce que vous dites, l'Europe a peur maintenant. Moi, je pense qu'il y a un sujet, et on le cite souvent à cette antenne aussi, qui est cette folie normative. Alors, normative sur 50 000 choses.
Sur laquelle la Chine travaille beaucoup. Le pouvoir des normes, c'est aussi
Après, il y a la réalité, des normes. Ah oui, enfin, il y a deux choses. Il y a la réalité des normes pour imposer des normes, je ne sais pas quoi, prise électrique. Moi, je parlais de normes très environnementales ou des normes du travail, des choses comme ça. Bon. Non pas qu'il faille les rayer, hein, et l'exemple américain, ça n'est pas le bon à suivre. Mais encore une fois, sachons raison garder et trouvons le bon équilibre. Au-delà du fait qu'on a peur, mais moi je pense pas, c'est nous Européens qui nous tirons des balles dans le pied, qui nous mettons des freins sur des kilomètres de choses. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Regardez là sur les terres rares, ça y est, on commence à bouger. Bah oui, on réouvre des mines, des extractions de lithium ou d'autres choses, etc. Alors faisons-le en étant attentif à un certain niveau raisonnable de protection de l'environnement. Évidemment, l'urgence climatique est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté.
On n'en veut plus de tous ces process industriels qui polluent en Europe. Aussi.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on veut c'est le fameux truc sur les noisettes où on interdit la production de noisettes en France.
Et on achète. En
alors, là, il y a la loi, j'ai pas vu le détail qui est passé, je crois, à la Chambre.
Oui, aujourd'hui, elle doit être votée aujourd'hui, la loi de l'urgence
agricole. Qui va quand même faire bouger les choses. Donc, au-delà de dire c'est les autres qui, non, regardons-nous, c'est nous-mêmes qui nous tirons des balles dans le pied. Qui ne sont pas assez réactifs et assez volontaristes sur le développement de notre économie.
Thomas Grébin.
D'accord, je pense qu'aussi il y a un gros problème de priorisation en Europe. La semaine dernière, on a publié avec Matteo Torres un article sur les plans quinquennaux chinois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la priorisation quasi absolue qui est donnée à l'industrie et à la souveraineté technologique. Et tous les autres objectifs sont plus ou moins soumis. C'est-à-dire, on parle souvent, la Chine va réorienter son marché intérieur. On voit bien que dans le document, c'est complètement secondaire par rapport à la priorité industrielle. Et sur l'environnement, c'est très clairement, on développe une industrie verte et c'est ça qui va permettre de faire la transition écologique. Mais la priorité, c'est d'abord l'industrie, c'est d'abord la souveraineté technologique.
Ils arrivent toujours à réaliser leur plan.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais aussi
parce qu'ils ont des priorités qui sont clairement définies. Nous, en Europe, on a une année où on priorise la transition écologique, où on va faire, par exemple, des dispositifs type la ZAN. Et l'année d'après, on va se rendre compte, mince, on peut pas construire de gigafactory, donc on va revenir sur les textes. Et en fait, on modifie chaque année les objectifs parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Et quand on sait pas ce qu'on veut, c'est très difficile d'être capable de concurrencer.
Qui viennent modifier les priorités. Vous parlez de priorités. Leur grand avantage, entre guillemets, parce que ça n'en est pas un de mon point de vue. Leur grand avantage, c'est que les plans, je le disais, ils les réalisent parce qu'il n'y a pas d'alternance. Et donc, ça permet à
les bienfaits de la démocrature.
Voilà.
Une maison tenue, un pouvoir fort.
C'est aussi qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas toujours dire les Chinois, vous vous rendez compte, ils réalisent ça. Ben, bien sûr, il n'y a jamais aucune contradiction dans leur système. Et nous avons des grosses difficultés dans nos contradictions. Ouais, maintenant, parce que fait de la démocratie.
Ce sera le mot de la fin. Merci, merci à tous les trois. C'est terminé. On pourrait en débattre pendant des heures. On le refera à Christian Poyot. Ne vous inquiétez pas. Merci Christian Poyot. Merci Hervé Novelli et Thomas Grébin pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est R&D Défense animé par Jean-Baptiste Huette. Quant à moi, je vous retrouve demain. Même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très, très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.